La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Comme vous le savez tous, ou alors je me demande sur quelle planète vous vivez, l'atmosphère, l'air du temps est au duel.
Eh oui, il y a des duels de toutes sortes, des duels amicaux, des duels à mort.
Ouais, des duels inamicaux, et pour éviter de vous parler des duels électoraux, puisque on ne parle plus que de ça, ça en devient pratiquement sursaturant, nous allons exactement, comme tu viens de le dire, vous parler de quelques duels musicaux mémorables.
C'était quand même une habitude que le jazz a eue depuis le départ, parce que rappelez-vous, on vous en a parlé parfois, lorsque on évoquait la Nouvelle-Orléans, il y avait des duels d'orchestre qui se rencontraient. Ils ne savaient même pas d'ailleurs qu'ils allaient forcément se rencontrer, vous voyez. Et puis tout d'un coup, hop, un coin de rue surtout, que c'était plutôt coupé au carré, deux orchestres se rencontraient, ils commençaient à jouer l'un puis l'autre, et les spectateurs décidaient. Et c'était le duel. Cette habitude très ancienne, on la retrouve dans des périodes beaucoup plus récentes.
En fait, les musiciens de jazz sont des compétiteurs. Voilà, il faut savoir ça. Surtout que dans pratiquement tout ce qu'on peut vous faire écouter aujourd'hui, les gens sont très jeunes. Hein. Ce sont des gens qui ont l'âge de jouer au rugby, en fait, tout cela. Et ils en veulent. Hein. Et ils en veulent. La première grande confrontation connue et qui a laissé une trace s'est déroulée dans les années 20 lorsque Louis Armstrong est arrivé à New York, engagé par Fletcher Anderson, et que Fletcher Anderson l'a présenté à tous les publics devant lesquels son orchestre se produisait. Et c'était justement, comme les musiciens du Sud commençaient à arriver à New York, une sorte de compétition, de confrontation, de concurrence entre ce qu'on appelait le style du Sud et ce qu'on appelait le style de l'Est. Et là, côté Sud, il y avait Louis Armstrong, mais côté Est, il y en avait un autre.
Il s'agissait de Joe Smith, qui avait déjà une sacrée réputation. Hein.
Si tu penses qu'il avait son orchestre, qui a commencé à enregistrer sous son propre nom, avec Ethel Waters qui chantait, alors qu'il avait 19 ans, c'était quand même un type qui avait de la précocité et avait un talent absolument fou.
Mais Louis Armstrong, ah là là, c'était vraiment... On emploie beaucoup cette expression maintenant, mais je vais la garder. C'était une pépite d'or, cet homme. Vraiment. Et quand Joe Smith l'a vu arriver, il n'était pas tranquille, le gars Joe. Hein.
Non, pas vraiment. Alors, il y en a un qui a 23 ans, l'autre 22. Et la scène se passe à l'Apollo. Voilà, nous laissons la parole à un trompettiste de cette époque, très riche en événements, qui s'appelait Louis Metcalf et qui n'en était pas encore revenu au moment où il racontait cette histoire bien longtemps après.
À mon avis, la controverse sur les deux styles, Est et Sud, a commencé quand Louis Armstrong a remplacé Joe Smith dans l'orchestre de Fletcher Anderson. Ça a été une vraie bagarre. Chaque musicien prenant parti. Louis représentait le style Sud et Joe Smith le style Est. Et je n'ai jamais rien entendu de plus sensationnel que la nuit où Anderson présenta Louis à l'Apollo Theater. Je ne me rappelle pas si on s'attendait à une chose pareille, mais Joe Smith était installé dans la fosse avec l'orchestre du théâtre et croyez-moi, dès les premières mesures, il fit crouler la baraque. Il y eut 5 ou 6 rappels et il n'avait sans doute jamais autant joué de sa vie. Je suppose qu'il a fait ça rien que pour prouver qu'il était encore le grand Joe Smith. Je crois qu'on a supprimé une partie du programme pour qu'Anderson ait sa part et qu'on puisse comparer les deux orchestres. Ils jouèrent d'abord Copenhagen et le solo de Louis fut très bon, mais d'un style différent. Et le public ne sut pas quoi applaudir le plus. Le morceau suivant fut encore meilleur et les gens commencèrent à s'agiter et à dire « Oh, voilà encore un as de la trompette !» Au troisième morceau, il savait vraiment à quoi s'en tenir. Il disait « C'est un nouveau roi de la trompette !» Il avait conquis la salle.
Pour illustrer cet épisode, tout en rappelant qu'en fait, Louis Armstrong n'a pas remplacé Joe Smith. Il s'est simplement assis au pupitre des trompettes à côté de Joe Smith parce qu'ils ont cohabité quelque temps ensemble. Et vous allez entendre un morceau où on entend plusieurs solos de trompettes. Eh bien, il y en a qui sont de Joe Smith et d'autres de Louis Armstrong. Et nous vous donnons bon courage pour démêler l'ensemble. En tout cas, ça swing.
Alors ce morceau fameux, c'est TNT.
Ce qui veut dire trinitrotoluène.
Boum!
Vous avez pu entendre, le jeune Louis Armstrong n'était pas un homme à se laisser marcher sur les pieds et il a eu bien besoin de toutes ses qualités de fermeté et d'autorité, même jeune, pour tenir tête à Sidney Bechet.
Ouh là là, vous connaissez un peu la réputation de Sidney Bechet, on vous en a parlé. Hein. C'était un pas commode, mais vraiment pas commode.
Et il voulait absolument être au premier plan. D'ailleurs, certains de mes amis ont vu... très jeune, un fameux festival à Knokke-le-Zoet où Sidney Bechet, saxophone soprano, était confronté à Teddy Buckner, trompettiste assez ferme dans le caractère. Et dans un certain morceau, ça a été à qui tenait la note finale le plus longtemps. Et ça a été absolument homérique.
Oui, ils ont failli mourir étouffés tous les deux.
Mais là, nous sommes bien avant. Et à la même époque d'ailleurs que le morceau précédent, puisque Clarence Williams s'arrangeait aussi pour mettre la main sur les vedettes qui débarquaient à New York pour accompagner son épouse Eva Taylor, qui poussait la chansonnette, lui tenant le piano. Et ça donnait le Clarence Williams Blue Five, et là vous allez entendre dans un morceau qui s'appelle
« Cake Cooking Babies », ça c'est très connu.
Un formidable tirage de bourre entre le saxo soprano et le trompettiste.
Il faut se les imaginer tous les deux. Louis Armstrong, c'est quelqu'un de très souriant d'apparence, mais de très obstiné au fond. De l'autre côté, il y a Bechet, lui, c'est sourire que quand il en a envie, hein ? Et puis pas forcément. Donc, il y a un peu l'eau et le feu, mais le feu, il est à l'intérieur des deux.
Qui aura le dernier mot ? Eh bien, écoutez, vous verrez bien, c'est Sidney qui joue en premier en solo, et Louis en deuxième. Mais ils terminent ensemble, et c'est là, vers la fin du morceau, que se situe le sommet de cette compétition. Thank you. Souvent raconté, à cette époque-là, à Harlem, il y avait une école très spéciale de piano, héritière du ragtime, et qui s'appelait le Stride. Et le Stride, c'était une spécialité qui demandait beaucoup d'exigences pour la main gauche et pour la virtuosité. Et les trois grands du Stride de Harlem, c'était Fats Waller, James P. Johnson, son maître, et Willie Smith dit le lion. Et c'était des compétitions sans fin. Alors nous allons vous laisser avec Milton Mesereau qui en a raconté une dans son livre de souvenirs, La rage de vivre, et la description vaut le détour. Alors ils sont tous là autour d'un piano, et naturellement pour commencer la compétition, on fait appel à un deuxième couteau qui s'appelait Corky Williams.
Corky s'était mis au piano le premier et avait débuté par Tea for Two, un air que Willie the Lion savait faire drôlement barder. Tout à coup, Willie bondit et dit à Corky « Tire-toi de là, espèce d'enfant de putain de pianiste manchot, je le tiens !» Et là-dessus, il s'assied à côté de Corky. Tandis que Corky se poussait, Willie commence à jouer uniquement la partie de la main droite, Corky gardant les basses. Après quoi, Willie prend la relève de la main gauche aussi, sans que le tempo flanche d'un poil et sans sauter seulement un temps. Willie joua ainsi tout seul pendant un moment. Ensuite, Fats prit la suite, se coulant de la même manière que Willie l'avait fait pour Corky et tapa un moment sur la commode en lançant à Willie des coups d'œil entendus à chaque passage original et difficile. Et plus ça durait, plus la musique devenait frénétique. Le piano n'ayant plus une fraction de seconde de répit, jusqu'au moment où Fats dit « Moi, je m'en vais mettre tout le monde d'accord !» Il appelle son chauffeur et lui parle à l'oreille. L'autre sort et revient une heure après, mais pas seul. Fats avait téléphoné à James P. Johnson, à Jamaica, dans Long Island, et l'avait réveillé et tiré du lit. Le chauffeur se ramène donc avec James P., qui se frottait les yeux encore dans le cirage. Mais dès qu'il se mit au clavier, fini. Il avait les poignes tellement pleines de piano que c'était pas la peine de gueuler. Éteignez tout et appelez la police. La police fit irruption sur plein des voisins. On était tranquillement assis en bas à écouter la musique, nous disent les flics, quand on nous a appelés du poste pour nous signaler du tapage nocturne dans le voisinage. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas de goût pour ce qui est de la musique. Fats, ferme les fenêtres, verse-nous à boire et remets ça. Si bien que la séance se prolongea fort avant dans la journée, avec nos deux flics qui se prélassaient en buvant notre alcool et en écoutant notre belle musique. C'était chouettos.
Nous, on n'a qu'à regretter de ne pas avoir été là.
Mais on est encore un peu jeune.
Voilà, mais évidemment, nous n'étions à l'époque même pas pensé. Alors naturellement, une compétition pareille, malheureusement, il n'y en a jamais eu d'enregistré sur le vif, puisque la technique ne le permettait pas à l'époque. Mais ce qui se passait après, nous en avons une petite idée, parce que quand même, tout le monde se réconciliait après. Et comme ils étaient un petit peu bien partis, nous allons maintenant vous faire entendre, non pas un duel, mais un après-duel, à deux pianistes, chacun chantant d'ailleurs quelque chose. Et ça s'appelle...
How could I be blue?
Comment est-ce que je pourrais avoir le blues? C'est vrai qu'ils s'étaient bien amusés. Clarence Williams, James P. Johnson.
Jimmy?
Yes?
Where were you going in such a big hurry coming out that apartment house last night?
Oh, did you see me?
Sure I seen you. Almost broke my leg and come out ruining the janitor.
Oh, yeah?
Sure you did. And who was that man running behind you, Jimmy, trying to catch up with you?
Oh, that must have been my friend, Clarence.
Well, if it was your friend, Jimmy, why didn't you let him caught up with you?
Oh, man, that's my best friend. He must have been trying to catch me.
Well, Jimmy, you tell me you go around to his house a lot.
I do. I go to see his wife and him all the time.
Yes, but what was that shiny thing you had in his right hand waving at your coattail, Jimmy?
Oh, I must have left something, and he was trying to give it to me.
Yes, if he'd have given you what he was waving at your coattail with, Jimmy, he would have cut your friendship out.
Oh, come on, let's play piano.
Tu sais que le véritable instrument de Duke Ellington, qui était un très bon pianiste, c'était en réalité son orchestre.
Son orchestre, au fond, c'était son petit paradis. Parce qu'il travaillait pour cet orchestre, qui lui coûtait de l'argent. Ne croyez pas qu'il lui rapportait. Il lui coûtait de l'argent. Alors, il gagnait de l'argent tout le long de l'année, avec des choses qu'il aimait faire, n'exagérons rien.
Mais surtout avec ses droits d'auteur, colossaux.
Mais en particulier avec ça, effectivement. Et... le reste du temps, il pouvait se faire plaisir avec son orchestre.
Dans un orchestre qui comporte au moins une quinzaine de musiciens, un petit peu plus souvent, eh bien, il faut aussi savoir tenir son monde. Et il faut jouer également sur les compétitions entre les membres de l'orchestre. Il faut les stimuler.
il faut les booster un peu.
Ah oui, et on obtient des résultats étonnants. En voici un. Alors, c'est un duel de trompettes. Mais ce n'est pas tout à fait un duel, parce qu'ils sont quand même voisins de pupitre. Hein. Ils sont sur le même bateau. Alors, c'est à la fois une compétition et une sorte de conversation musicale. Mais conversation très animée. C'est Rex Stewart, écoutez Williams, chacun son tour, c'est Rex qui commence. Et la discussion s'achève quand même sur une conclusion commune, comme vous allez pouvoir entendre.
Et voici donc Tooting Through the Roof, par l'orchestre de Duke Ellington. On va voir à quoi ils s'amusaient, ces gens-là. Au cours d'une séance d'enregistrement, ils ont décidé, Rex et Cooty, donc tous les deux trompettistes, bien sûr, comme vous le savez, ils ont dit, voilà, on va partager l'orchestre en deux. D'un côté, il y aura un trompettiste, un trombone, un saxo, et en face, un trompettiste, un trombone et un saxo. Et on va voir, de ces deux petits bouts de formation, qui va gagner? C'était un concours comme ça, donc ça faisait trois duels.
Ils ont mis ça à exécution, le disque s'appelle The Big Challenge. Et cette situation a été mise en scène, alors vraiment d'une manière tout à fait voulue. Et le morceau a été titré par Rex et Cooty, d'une manière assez cocasse d'ailleurs, Alphonse and Gaston. Ça nous a intrigués, Alphonse et Gaston. Eh bien, voici pourquoi.
On a cherché, parce que d'abord, Alphonse et Gaston, c'est vraiment français, et déjà Edune. Et figurez-vous que ça remonte à un peu vieux, puisqu'il s'agit de 1902.
Oh là là !
C'était des duettistes français, effectivement, parce qu'ils représentaient la politesse française dans ce qu'elle a d'extrême, à la limite de la préciosité.
Il paraît que dans leurs habits de la belle époque, absolument flamboyants, ils étaient très beaux à voir et qu'ils étaient littéralement rutilants.
Mais vous me direz, ces gens-là, on les a vus, on les a connus? Oui, Tous les Américains les connaissaient et pourtant, c'était une bande dessinée qui représentait le français tel que plein d'Américains se les représentent. Ils jouaient sur ce côté-là. Après vous, mon cher, mais je n'en ferai rien. Mais si, mais si. Oh, allez-y, mon ami. Et ça faisait absolument tordre de rire les Américains. Alphonse et Gaston, mais ils sont restés donc dans la mémoire collective américaine.
Et tout ça, c'est devenu tellement proverbial que Rex et Cooty, ben, ils l'avaient encore en tête.
Et oui, pour un duel, ça leur semblait normal.
Et alors, on peut se demander si, dans ce que vous allez entendre, le duel n'est pas également un duel de sorte de simili-bonne éducation. Parce que figurez-vous que, pour avoir connu un des deux trombones qui s'appelait Lawrence Brown, nous avons le souvenir d'un homme extrêmement raffiné. D'ailleurs, ça s'entend dans sa façon de jouer et dans sa sonorité. En face de lui, il y a Higgins Bosham, qui est une force de la nature. Et puis, les deux saxo-ténors, alors eux, à mon avis, il y a le maître et l'élève, là, quand même. Entre Coleman Hawkins, d'un côté, et Bud Freeman, de l'autre, qui est un petit peu timide.
On le serait à moins.
En tout cas, ils sont propulsés par une très belle section rythmique et ça donne un morceau assez délectable. Voici les trois duels de Alphonse and Gaston.
Uh-huh. Thank you.
dans les confrontations, il y a quelque chose qui, quelquefois, inquiète un peu les plus anciens, c'est la confrontation avec celui ou celle qu'ils ont formé et qui est en train petit à petit de les grignoter, en tous les cas de grignoter la différence qu'il y a entre eux. Et c'est une confrontation donc maître et élève entre Coleman Hawkins et Ben Webster.
Tu sais que le jeune Ben Webster avait travaillé le saxophone dans sa chambre jusqu'à ce que ça sonne comme Coleman Hawkins. Il a travaillé avec acharnement et il nous a raconté un jour, quand ça s'est mis à sonner exactement comme Hawk, alors je suis sorti de ma chambre et je suis allé jouer en ville. Et il a eu un sacré succès parce que c'était un sacré personnage, ce Ben Webster. Il a exactement le physique de ce qu'on vient de raconter. D'abord, c'était un balèze. Ensuite, il avait un regard qui démontrait une fermeté de caractère tout à fait remarquable.
Imaginez un grand taureau de bande dessinée, vous voyez ? C'était ça.
Et puis, sa musique le ressemblait bien souvent à ça. Il avait su, en musique, approcher Hawkins comme personne ne l'avait fait. Un promoteur avisé s'est dit, moi, je vais quand même confronter le maître et l'élève, et ils ont appelé ce disque Duel.
Oui, ils ne sont pas compliqués là.
Au milieu, il y avait une section rythmique qui était simplement le trio d'Oscar Peterson. Il en est résulté entre autres un morceau à ambiance un tantinet latino, et ça s'appelle
La Rosita, olé.
Eh bien, dans La Rosita, ce n'est pas à proprement parler un duel, c'est plutôt une sorte de collaboration absolument fusionnelle. Surtout dans les passages à deux voix qui sont magnifiques. Ces deux sax ténors ont une sonorité formidable. Ils sont totalement de la même école, puisqu'il y a le maître et le disciple. Et c'est un disque qui est devenu légendaire.
Mm-hmm.
Chance d'entendre de vive voix le récit de quelques compétitions de ce genre-là par quelqu'un qui y avait assisté. C'était un musicien américain qui vivait à Paris et qui jouait tous les soirs à la Cigale, boulevard de Rochechouart. Il s'appelait Jack Butler.
Oui, Jack Butler, on l'avait invité à dîner, plusieurs fois d'ailleurs. On était tout jeunes, nous. Hein. On avait quand même un certain scrupule parce qu'on habitait au 5e étage sans ascenseur et que cet homme-là avait une jambe artificielle. On lui a dit, vous voulez pas qu'on aille ailleurs parce que... Mais non, pas du tout, allez, je monte. Bref.
Et le résultat, c'est qu'il est monté en courant avec sa jambe artificielle tellement vite que j'ai eu du mal à suivre.
Et oui, pour nous prouver que ça marchait très bien.
Exactement. Et là, il nous a raconté une histoire qui valait vraiment son pesant de caramel. La scène se passe dans un de ces endroits de Harlem où on pouvait afficher, par exemple, sur une ardoise, vendredi soir, souper pour saxo, ou jeudi soir, souper pour pianiste, qui voulait dire qu'on annonçait une scène ouverte à la compétition. Et ce soir-là, tombent nez à nez deux saxophonistes alto éminents, et d'ailleurs également éminents arrangeurs, Don Redman et Benny Carter. Et voilà comment ça s'est passé selon notre ami Jack Butler.
Je me souviens d'une fois où Benny Carter et Don Redman se trouvaient là tous les deux. Don se pavanait devant ses admiratrices en disant « Je suis le saxophoniste le plus fort du monde », tandis que Benny, dans un coin de la salle, se tenait parfaitement calme, impassible, comme s'il n'avait rien entendu. Don Redman, cependant, continuait à vanter ses mérites. « Je suis le saxophoniste le plus fort d'Amérique, le plus fort de Harlem, le plus fort dans cette pièce. » Puis il prend son instrument et commence à jouer, accompagné par le pianiste qui se trouvait là. Pendant ce temps-là, les amis de Benny, qui ne s'étaient pas départis de son air indifférent, lui apportent sa boîte à saxo, que Benny sort et monte en vitesse. Benny se lève, s'approche de Don Redman et lui propose de jouer « Tea for Two ». Don accepte et les voilà tous deux qui se lancent dans de fantastiques improvisations. Au bout d'un moment, la voix de Benny s'élève. « On change de ton toutes les 8 mesures, puis toutes les 4 mesures, et puis toutes les 2 mesures. » À ce moment-là, le pianiste demande grâce. On téléphone en hâte à Fletcher Anderson en lui expliquant brièvement ce qui se passe. Fletcher arrive, les yeux encore pleins de sommeil, se met au piano et Benny et Don repartent de plus belle. Puis Benny lance « On change de ton toutes les mesures ». À ce moment précis, Don Redman devient blême, tout saute, range précipitamment son instrument en disant « Je suis très 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 pressé, ma femme m'attend, il faut que je m'en aille ». Et il disparaît, tandis que Benny, l'air toujours aussi paisible, demandait « Mais pourquoi est-il parti ?» On s'amusait pourtant bien.
Naturellement, cet épisode n'a pas été enregistré. Et c'est très rare d'ailleurs qu'on ait pu arriver à enregistrer des événements de ce genre. Mais nous avons en magasin un morceau assez étonnant qui donne une idée de ce que peuvent être deux compétiteurs enragés à se tirer une bourre phénoménale. Et ça s'appelle...
Bugle Cold Rag.
Et les deux protagonistes sont à ma gauche...
Rex Stewart.
À ma droite...
Charlie Shavers.
Comme c'est deux des plus grands techniciens de la trompette que le jazz ait jamais porté, ça va assez loin. Ça va même tellement loin que, par moments, c'est presque décousu. On tutoie un peu l'obstacle.
Eh oui, ils en volent tellement qu'ils se précipitent, quoi.
Et ils se rejoignent sur la fin, comme tout à l'heure Rex et Kuti dans Two Tins Through the Roof. Ils se rejoignent sur la fin, mais pas du tout dans la collaboration. C'est vraiment à qui va jouer le plus fort, le plus haut, le plus puissamment. Ha ha ha!
looking at the picture of jazz.
Thank you. Are you there?
I'm with you, Rex.
Et oui, le jazz était un univers féroce et sans pitié. Et non seulement il y avait des confrontations de solistes, d'ailleurs ça existe encore de nos jours, quelquefois au Petit Journal à Paris ou dans d'autres lieux, il y a des gens qui se mettent en concurrence, hein, ça arrive ça. Et puis il y a les batailles d'orchestres entiers, d'un big band contre l'autre.
Ça rappelle un peu ce qui se passait à la Nouvelle-Orléans, mais là c'est dans des salles avec un public très connaisseur. Hein, c'est pas dans la rue, là. Hein.
Et dans des endroits où il y a deux podiums, de manière à ce que la musique passant d'un orchestre à l'autre toutes les 20 minutes ne s'arrête jamais pour les danseurs.
Ce qui était très intéressant, c'était de voir le public se masser vers celui qui semblait le meilleur à la grande gêne de celui qui semblait le moins bon.
Ah là, le public votait avec ses pieds d'une manière tout à fait éloquente. Au Savoy, justement, en endroit emblématique, il y avait un orchestre à côté de l'autre. De cette façon, c'est ce que va nous raconter un des musiciens qui a assisté à une célèbre bataille. Et puis, il va décrire un petit peu ce qui se passait. Vous allez être étonnés. On se demande même si on n'aurait pas pu organiser plusieurs championnats de plusieurs divisions avec descente, montée, classement, points, l'ouvrage et tout.
C'est ce qui se passe dans les fanfares qui ont
Il y a une hiérarchie.
Il y a une hiérarchie très précise.
Absolument. Eh bien là, c'était beaucoup plus libre et aléatoire, mais c'était un petit peu ça. Féroce.
Mais le bouche à oreille, c'était un peu comme si vous aviez gagné les étoiles. Hein.
Ça, c'est sûr.
Voilà ce que racontait Lloyd Scott. Au Savoy, un soir de 1928, nous avons gagné un extraordinaire combat musical contre 8 orchestres. Dont celui de Fletcher Anderson et celui de Charlie Johnson.
Aussi, elle se souvient encore. Hein.
Eh oui. Il le surnommait South Sea Island Bowl. Un autre concours était nommé Arabian Night Bowl. Il eut lieu l'année suivante, également au Savoy. Nous nous sommes classés second, après l'orchestre d'Ellington. Ces combats étaient des affaires férocement disputées. C'était une question de prestige. Des orchestres se préparaient intensivement, longtemps à l'avance, ce qui donnait une formidable émulation dans la mise au point des arrangements. Une chose particulièrement brutale fut une victoire sur 3 orchestres, Fess Williams, Cab Calloway et Fletcher Anderson. Notre victoire fut très nette, mais seulement après un combat qui dura toute la nuit et se termina à 7h, le dimanche matin.
Deux des plus grands chefs d'orchestre de cette époque se sont souvenus de ces circonstances et, avec chacun son big band, ont enregistré un disque en commun qui s'appelle Battle Royale.
Et oui, la bataille royale, simplement.
Exactement. Il s'agit de Count Basie d'un côté et de Duke Ellington de l'autre. Ah, c'est les deux orchestres au complet, y compris la rythmique.
Hein. Ah oui, c'est les deux plus grands noms. Hein.
Et le morceau qui a donné lieu au titre de l'album, qu'on appelle chez les savants le morceau éponyme, s'il vous plaît, ma chère Alphonse.
Mon cher Gaston.
Eh bien, il s'appelle justement Battle Royale et nous allons vous le faire entendre pour clore cette émission sur le duel. Voilà, alors nous ne savons pas du tout ce qui va sortir du duel qui préoccupe tout le monde en ce moment, mais de toute façon, nous vous rappelons qu'il faut aller voter.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.